FI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous nous intéressons aux conséquences des aléas naturels sur nos sociétés. Tempêtes, inondations, tremblements de terre font des ravages, en partie parce que nous ne savons pas nous adapter. Pourtant, les chiffres sont clairs et ils ont été rappelés cette semaine à Sendai au Japon, lors de la 3e conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes. 1 euro investi dans la prévention permet d'en économiser entre 4 et 7 en réparation. C'est donc rentable, mais nous semblons atteints par le syndrome de l'autruche. Alexandre Magnan, vous êtes géographe, chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, vous travaillez justement sur la vulnérabilité de nos sociétés face aux catastrophes. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet aveuglement ?
Il y a plusieurs raisons. Je dirais que la principale, c'est quand même une vision du développement qui est quand même économico-centrée. Je ne sais pas si le terme existe vraiment. En tout cas, une vision du développement qui n'intègre pas tellement ou peu la contrainte environnementale, et en l'occurrence ici la question des risques naturels, mais c'est un petit peu la même logique sur l'épuisement des ressources non renouvelables, etc. Mais là, il y a vraiment une sorte de déni du risque. Ben oui, ça nous impose des contraintes, donc on a envie de faire sans. Et comme les grosses tempêtes, par exemple, n'arrivent pas non plus tous les jours, bon, ben on se dit, allez, on peut essayer de développer les choses ici, puis on verra bien
un jour si ça arrive. Oui, mais enfin, ça donne des catastrophes comme Katrina, par exemple.
Ça donne des catastrophes comme Katrina, c'est effectivement, mais comme ce qui s'est passé au Japon, etc.
Parce qu'on a construit, faut rappeler pourquoi on dit cela à propos de Katrina.
Oui, parce que la ville s'est étendue progressivement, elle est construite sur une zone humide. Une zone humide, c'est une zone très basse, au bord de la mer. Donc une zone qui naturellement en fait subit des submersions quand il y a des grosses tempêtes. On a étendu la ville qui a colonisé progressivement cette zone humide. Ça évolue comme ça. Et puis un jour il y a un gros ouragan, on l'appelle Katrina. Et puis on se rend compte que quand il y a des grosses tempêtes comme ça, il peut y avoir des grosses submersions et des inondations fortes. Et là ça pose problème.
Et on se dit, on n'aurait pas dû construire, mais c'est trop tard. Alors, les Philippines, qui ont subi cette sentifon depuis les années 70, ont bien compris, elles, les enjeux de l'adaptation depuis le terrible typhon Haiyan de novembre 2013, d'une ampleur jamais égalée, hein, avec ses vents de 300 km/h et ses vagues de 7 mètres de haut, l'aide internationale afflue. Comme Igor Strauss a pu le constater, les Philippines sont devenues un laboratoire de l'adaptation aux aléas naturels. Depuis 1996, l'Union européenne a lancé un programme de réduction des risques et de préparation aux désastres, appelé DIPECO. Exemple de son action sur l'une des 7000 îles des Philippines, la toute petite île de Tigdaranao, où un exercice d'évacuation était organisé.
On a sorti le drapeau orange. Et ceci signifie qu'il faut informer les gens qu'une tempête pourrait arriver sur le village. Les gens doivent donc se tenir prêts à évacuer.
Donc là, on est en plein exercice général. Les gens répètent dans le village et s'entraînent à évacuer.
Yes, sir.
Oui, monsieur.
We are exercising that.
C'est un exercice d'évacuation. Les membres du comité d'alerte doivent avertir les gens par différents moyens. D'abord, avec les drapeaux de différentes couleurs. Puis en faisant sonner la cloche.
Ah, donc là, quelqu'un prend le drapeau rouge, ça va être la panique.
Weather updates, yung papasabotan mo lop yung barangay Tigdaranao na may danap public storm signal kaupod ang western summer.
Ok, bonjour, je m'appelle Dimerci et je suis un des bénévoles du comité d'alerte. D'abord, le comité en charge de la communication surveille les bulletins météo et nous tient informés. Ensuite, nous, au comité d'alerte, on prévient les bénévoles qui doivent à leur tour faire passer le message. L'un des bénévoles prend alors ce drapeau et circule avec dans le village pour avertir les habitants qu'il va y avoir une tempête dans la région. Dans ce cas, on utilise le drapeau vert. Mais si on apprend que la tempête se dirige vers notre île, là, on avertit les gens et on sort le drapeau orange. À ce moment-là, Les gens savent qu'ils doivent rester chez eux. Mais si la situation s'aggrave, les membres du comité d'alerte envoient le signal et on sort le drapeau rouge. Et dans ce cas-là, les gens doivent évacuer. Ça, c'est quand la tempête est arrivée sur l'île. Les habitants sont obligés d'évacuer leur maison avec l'aide des membres du comité d'alerte. Ils sont assistés pour l'évacuation.
Et alors, où est-ce qu'ils sont évacués, les gens? Et est-ce que vous avez assez de centres d'évacuation ici dans l'île?
Oui, il y en a assez. D'abord, les gens sont envoyés dans l'école élémentaire, où il y a 10 classes qui servent de centre d'évacuation. Et si les gens ne veulent pas évacuer dans l'école, eh bien, il y a aussi certaines maisons qui servent de centre d'évacuation temporaire.
Quand a eu lieu le dernier typhon durant lequel vous avez dû évacuer, justement?
La dernière fois, c'était pendant le typhon Ruby, en décembre dernier. On a fait évacuer tous les habitants.
Et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème?
Oui, tout s'est bien passé. C'est la mentalité philippine. Il n'y a pas eu de mauvaise réaction ou de mauvais retour. Tant qu'ils se sentaient en sécurité, ça allait. On leur en est très reconnaissant, d'ailleurs.
Alors, depuis combien de temps ce système de prévention dans le village, dans le barangay, existe? Et comment ça se passait avant?
Le programme de réduction des risques a débuté en 2012. Donc avant cela, quand il y avait une tempête, les gens paniquaient et ne savaient pas quoi faire. Mais maintenant, heureusement, avec ce programme, les gens commencent à comprendre ce qu'il faut faire avant, pendant et après un cyclone. Et c'est très bien comme ça, parce qu'avant, on voyait la nervosité, la peur. Les gens étaient paniqués. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir si le cyclone détruit nos maisons? C'était le temps où les gens étaient tétanisés par la peur. On était tous nerveux.
Alors là, je rentre dans une petite classe. Là, c'est l'école.
They are now doing.
Oui, les gens sont en train d'évacuer.
People are now going to the.
Chacun va dans le centre qui lui a été attribué.
And there are already three
typhoons. On a déjà vécu trois cyclones pendant lesquels on est resté ici, dans cette école.
Alors là, c'est une classe qui fait environ 40 mètres carrés. Combien de personnes est-ce qu'on pourra mettre ici en cas d'évacuation?
There are about 15 families.
Il y a environ 15 familles ici, dans cette classe.
In this room.
Et en cas de problème, ils sont censés rester ici combien de temps?
After the typhoon, usually.
Après le cyclone, il faut généralement attendre 12 heures.
The weather is already good and fine. They will.
Et dès que le temps redevient normal, ils peuvent retourner chez eux.
Donc là, on voit que les gens, ils ont pris leur sac avec eux. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un ce qu'il a dans son sac?
Anonymo Dara, Yana. She's bringing the
casserole.
Elle a pris.
She's bringing the rice.
Elle a pris du riz.
With her.
Dans un petit Tupperware, il y a
coffee,
du café, une lampe, du riz.
Canned goods and medicines.
Et des médicaments.
Thermos.
Elle a aussi pris un thermos.
De l'eau.
And also bring mats.
Des allumettes.
Ah, il y a les matelas et les couvertures.
Oui. Et des habits.
Et ça, c'est pour combien de personnes?
Four members.
Eux, ils sont quatre dans la famille. Pendant les cyclones Ruby et Amang, ils avaient évacué ici, dans cette classe.
Et comment ça s'était passé?
Ok.
She said that it's fine.
Ça s'était bien passé.
Fine.
Et vous étiez resté combien de temps ici pendant le typhon Ruby?
Pendant Ruby, ils sont restés ici pendant deux jours.
Et c'est pas trop long de rester ici pendant deux jours? Parce que c'est pas bien grand quand même, vous êtes beaucoup de familles.
Pendant le typhon Ruby, il y avait 10 familles ici.
Qu'est-ce que vous pensez, madame, de ce type d'exercice? Est-ce que vous pensez que c'est utile?
C'est important. Parce que les cyclones sont très dangereux. Le cyclone Ruby était très fort. Et c'était la nuit.
Elle dit qu'on les a fait évacuer à 20h et que le cyclone est arrivé sur le village à minuit.
Pendant le typhon Ruby, justement, est-ce que vous vous sentiez en sécurité ici dans l'école?
I'm insecure because there have coconut tree. My house is near a coconut tree.
She feels safer in here than rather than staying.
Elle se sentait plus en sécurité ici que chez elle, car il y a beaucoup de cocotiers près de la maison. Il risquait de tomber. Toute sa cuisine a été détruite.
Merci.
Copy, please response, kaya din binodokumenta natin yan na.
Monsieur, je vois que vous êtes de l'équipe des secouristes. Est-ce que vous pouvez venir ce qui se passe maintenant?
Someone is like drowning.
Là, nous avons quelqu'un qui est en train de se noyer. Et un secouriste part l'aider.
Et vous pensez que c'est important ce type d'exercice?
Bien sûr que c'est important. Ça nous permettra de sauver des vies. C'est un exercice, mais on fait comme si c'était une situation réelle.
Merci.
Et désormais, une loi oblige les Philippins à faire des exercices d'évacuation. Alors évidemment, Alexandre Magnan, elle n'est pas encore appliquée partout. Je rappelle qu'il y a plus de 7000 îles aux Philippines. Mais est-ce que ce genre d'exercice et de dispositif vous semble pertinent?
Ça, on peut difficilement s'en passer. D'une part parce que ce genre d'exemple-là dans ces petites îles, ce sont des exemples extrêmement importants parce qu'ils envoient des signaux positifs. Des signaux qui disent, mais oui, on peut faire des choses, c'est possible, on peut faire évoluer les situations. Ça, c'est extrêmement important. D'autre part, on a des exemples ailleurs dans le monde, je pense en particulier au Japon, mais aussi à La Réunion, où ce système de prévention existe depuis quand même très longtemps. À La Réunion, par exemple, la prévention des cyclones, ça existe depuis plusieurs décennies, avec des systèmes un peu pareils, vert, alerte orange, attention, on reste chez soi, on fait ses provisions, puis alerte rouge, plus personne ne sort, c'est interdit, etc. Et ça marche très bien, en fait, on voit à La Réunion qu'au bout de quelques décennies, les gens, alerte orange, alerte rouge, ils savent tous très très bien ce que c'est. Nous, on vient de développer des enquêtes sur ce sujet-là récemment à La Réunion. Et ils savent très bien qu'en alerte orange, il faut aller faire des réserves d'eau et de conserve. Au fil du temps, ça inscrit une vraie sensibilisation au risque et c'est extrêmement important, oui.
Oui, alors après, ça pose la question des moyens, parce que là, on le disait, les Philippines avec le typhon Haiyan ont vu affluer l'aide internationale. Maintenant, on sait qu'avec les changements climatiques, ce sont les pays les plus pauvres, les plus vulnérables qui sont impactés, donc qui n'ont pas tous ces dispositifs. Donc, est-ce que, selon vous, ça fait partie, par exemple, de l'aide que l'on doit apporter à ces pays ?
Ah oui, clairement.
Quand on parle d'adaptation, on parle de ça aussi ?
Ben oui, parce que quand on parle d'adaptation, on parle de deux choses principales pour essayer de simplifier un peu la question. On parle d'une part de résilience, c'est-à-dire quand un cyclone arrive, comment on se rétablit après. Et puis on parle aussi d'anticipation, parce que la question du changement climatique, elle apporte quelque chose d'important sur la table, c'est cette connaissance que le climat va changer et que les variables liées au climat vont du coup elles-mêmes aussi changer. La fréquence, etc., des cyclones par exemple. Donc l'anticipation aujourd'hui, on peut plus faire sans, c'est extrêmement important, et les systèmes de prévention sont quand même un pilier important de l'anticipation.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en compagnie du chercheur Alexandre Magnan de l'IDRI, spécialiste de l'adaptation aux aléas naturels. Et l'une des possibilités pour s'adapter, c'est de préserver les écosystèmes. Aux Philippines, par exemple, les pêcheurs ont été lourdement touchés par le cyclone Haiyan. Selon les estimations de la FAO, 400 000 petits pêcheurs ont tout perdu et plus de 30 000 embarcations ont été détruites. Du coup, la FAO et le gouvernement philippin a restauré les pêcheries et essaient de créer des activités génératrices de revenus pour permettre aux communautés de survivre. Igor Strauss a rencontré Peter Agüeño, le coordinateur du programme de réponse au cyclone Haiyan de la FAO, dans le village de pêcheurs de Marabout, au sud-ouest de l'île de Samar.
So this is a recovery and rehabilitation project under a Haiyan operation.
Donc c'est un projet qui fait partie de la réhabilitation post-Haiyan, le typhon qui a frappé en 2013. Il y a eu une évaluation de l'impact du typhon fin 2013, début 2014, non seulement sur les dégâts matériels, mais aussi sur les dégâts économiques, l'impact économique du cyclone. Et il y a évidemment la population de pêcheurs a été très touchée. Il y a énormément, alors il estime 11 millions de dollars de bateaux détruits, 12 millions de ressources marines détruites, d'où cette idée de renflouer un petit peu la communauté des pêcheurs en leur assurant cette surface protégée pour en fait contribuer à quelque chose qui était déjà planifié avant mais qui marchait plus ou moins bien et en y associant davantage des communautés. Donc c'est le gouvernement qui identifie la zone comme une zone qu'il faut protéger, qui est bien placée, etc. Et eux, après, ils travaillent avec les communautés pour le mettre en place.
So FAO has two programs underneath the Haiyan response.
Dans la réponse au typhon Haiyan, la FAO a deux programmes. Un, c'est lié aux pêcheurs et l'autre, c'est lié à tout ce qui est à l'exploitation des noix de coco, qui est évidemment un énorme moyen de subsistance ici. Et ça implique non seulement améliorer les pratiques d'exploitation, mais aussi tout ce qui est la valeur ajoutée, c'est-à-dire assurer un marketing de ces produits, un meilleur lien avec les marchés locaux. Et puis également, c'est un petit peu le lien entre ces deux projets, c'est la préservation des mangroves et même la restauration des mangroves qui évidemment sont détruites par les typhons très régulièrement et aussi malheureusement par des gens qui vont les couper. Et donc le fait de restaurer ces mangroves protège aussi les cocoteraies derrière.
Thank you for. And then.
Je m'appelle Siegfried Jeffel, j'ai 38 ans et je suis pêcheur depuis presque 10 ans.
Alors parlez-moi un peu de ce projet d'aire marine protégée communautaire. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, les pêcheurs ?
Cette aire marine protégée nous aide énormément. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller en mer pour trouver du poisson. Donc on gagne du temps et puis c'est beaucoup moins dangereux. Parce qu'avant, on passait beaucoup de temps à essayer de trouver de bons spots de pêche. Et certains étaient vraiment loin, à plus d'une heure de navigation. Et parfois, quand le temps devenait mauvais et qu'on était loin en mer, ben là, ça devenait vraiment très dangereux. Parce que nous, on a des petits bateaux. Et quand il y a une forte houle, c'est vraiment un problème. Donc des fois, on préférait rentrer sans rien plutôt que d'essayer de pêcher sur une mauvaise mer. Et puis, quand on pêche en pleine mer, on est sûr de rien. Il y a aussi le facteur chance. Des fois, on trouvait très peu, voire rien du tout.
Et alors, quelle est votre responsabilité ? Qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant que pêcheur, pour protéger cette aire marine protégée ?
Moi, en tant que pêcheur, je participe aux patrouilles dans l'aire marine protégée. Je me suis porté volontaire avec d'autres membres de la communauté. On navigue sur toute l'étendue de l'aire marine pour s'assurer que personne n'y entre et surtout n'y pêche. Et si on intercepte des pêcheurs illégaux, on leur explique qu'ils n'ont pas le droit de pêcher dans cette zone.
Et apparemment, il y a aussi un projet de protection de la mangrove. Est-ce que vous pouvez m'en parler, me dire en quoi ça consiste ?
La mangrove est également protégée dans notre aire marine. D'ailleurs, lors de nos patrouilles, on s'assure aussi que personne ne vienne la couper. Car la mangrove joue un rôle très important pour nous. C'est comme un rempart face à la mer. On le voit, dès qu'il y a de la mangrove, les vagues sont ralenties et l'eau n'envahit pas nos maisons. Mais aux endroits où il n'y a plus de mangrove, l'eau pénètre loin dans les terres. Donc c'est très important pour nous. Et c'est aussi dans la mangrove que les poissons grandissent. On la protège, mais c'est difficile. Car il y a beaucoup de gens qui la coupent pour le bois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on replante partout où elle a disparu. Et on explique aux gens qu'il faut la préserver.
Alexandre Magnan, la restauration des écosystèmes fait aussi partie des solutions ?
Majeur. ces écosystèmes, ils jouent un rôle important. Ils sont ce qu'on appelle des zones tampons. C'est ce que le monsieur explique hein, dans le reportage. Effectivement, une mangrove, ça casse les vagues. Ça permet un petit rehaussement du rivage en termes d'altitude. Et du coup, ça limite les intrusions d'eau. C'est absolument majeur. En plus, c'est en général ce qui coûte le moins cher.
Alors, est-ce qu'il faut aussi entretenir la mémoire des lieux, écouter les personnes les plus âgées qui racontent ce qui s'est passé autrefois pour ne pas s'installer n'importe où?
Oui, ça c'est extrêmement important. Ça renvoie à cette question de la préservation des écosystèmes, parce que les anciens ont vu les effets des écosystèmes comme les mangroves, comme les récifs, sur la réduction finalement des impacts des aléas naturels. Et c'est extrêmement important parce que on est plutôt dans une logique aujourd'hui, dans un autre rapport aux ressources, qui est quand même soumis à cette pression du développement partout, hein, dans nos pays aussi. Et cette question du rapport aux ressources, c'est elle qui génère le risque, parce que c'est elle qui fait que, à un moment donné, on prend plus en compte des questions de développement que des questions d'environnement, donc de risque, et qu'à partir de là, on fabrique un petit peu les catastrophes, en défrichant la mangrove, en s'installant dans des zones qui sont pas adéquates, etc.
Alors, sans faire de philosophie, mais on peut se dire aussi qu'il serait peut-être temps de retrouver un peu d'humilité, hein, d'accepter de ne pas avoir le sentiment de tout maîtriser et surtout de ne pas tout miser sur la technologie, puisqu'on le voit bien à répétition, hein, les aléas naturels sont toujours plus forts.
Oui, de mon point de vue en tout cas, c'est le grand enseignement du changement climatique aujourd'hui. À un moment donné, le climat change et on n'est pas capable de maîtriser tout ce que ça va générer. Et à partir de là, oui, vous dites, c'est une vraie philosophie qu'il faut réinventer, hein, cette philosophie du rapport à l'environnement et à la contrainte environnementale.
Et il y a du travail. Merci beaucoup Alexandre Magnan. Je rappelle
Merci
le titre
vous.
De votre livre, coécrit avec Virginie Duvat, Des catastrophes, trois petits points naturels, point d'interrogation, publié aux éditions Le Pommier. Merci à Igor Strauss pour ce reportage, à Pierre Prakash de Echo pour son aide logistique et à François Porcheron pour la réalisation. Et c'est maintenant l'heure de la chronique climat de Pierre Radan.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour.
Le monde, on le sait, doit converger vers un accord pour limiter les dérèglements climatiques début décembre lors de la conférence de Paris. Et la question du développement sera au cœur de cette négociation.
Oui, bien sûr. Éviter le changement climatique va maintenant exiger le passage à l'action de tous les pays. C'est la première fois. Cela demande à chacun des 195 pays de dire comment il va y contribuer d'ici 2030. Ces contributions seront à déposer auprès des Nations Unies fin mars pour les pays industrialisés et pour fin septembre pour les pays les moins avancés. Les pays industrialisés et de plus en plus les pays émergents réalisent de telles prospectives. Ils veulent éviter des avenirs défavorables et programmer les investissements structurants. C'est donc un pilotage avec anticipation, respectant les accords et les règles internationales, et pas une boule de cristal pour prédire l'avenir.
Alors pour les pays en voie de développement, c'est évidemment bien différent.
Oui, la plupart des pays en développement connaissent tant de difficultés qu'ils n'ont guère la capacité de se projeter à long terme. Leurs contributions intégreront d'abord les projets préparés et envisagés, qui, se réalisant, seront favorables au climat, protégeraient leur population et amélioreraient leurs conditions de vie. Puis ce sont aussi des secteurs, des filières qu'il va leur falloir soutenir. Une agriculture plus productive, adaptée au climat. Des forêts protégées dans le bassin du Congo, le Sahel et l'Amazonie. Une production électrique à partir des énergies renouvelables présentes dans leur territoire, pour généraliser l'accès à l'électricité. Une construction de qualité dans les pays chauds, évitant un usage anarchique de la climatisation. Ces contributions vont donc constituer une phase préparatoire essentielle pour que les pays en développement élaborent des projets qui pourront être réalisés progressivement dans les années à venir.
Donc contrairement à ce que l'on a tendance à dire, le changement climatique, c'est finalement une formidable opportunité économique.
Ce changement climatique oblige les pays en développement à développer des capacités de planification, de s'appuyer pragmatiquement sur les initiatives locales, sur celles des entreprises, sur celles des villes. et plus encore dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, c'est la voie essentielle pour sensibiliser les populations, en pointant les bénéfices pour le développement. Bref, ainsi avancer vers de meilleures conditions de vie à long terme en créant des emplois. C'est là une ouverture vers une véritable relance économique mondiale. Et tout cela pose une question décisive. Y a-t-il une trajectoire de développement convergente de tous les pays, riches et pauvres, dans le futur? La réponse est oui, car ils ont tous intérêt à éviter un réchauffement climatique.
Le souci, c'est qu'il va falloir financer toutes ces actions et toutes ces infrastructures.
Le financement de toutes ces actions va nécessiter de l'argent en dons, notamment à travers le Fonds vert pour le climat, qui a été mis en place il y a 2 ans, qui est doté de 10 milliards de dollars. Mais l'argent public, l'argent des États, ne suffira pas. Il faut aller chercher l'argent du secteur bancaire, de l'épargne. Il faut aller chercher les investissements des entreprises, notamment des entreprises du secteur énergétique. Et bien évidemment, pour que les pays en développement puissent mixer ces formes d'argent, eh bien, il faut qu'ils aient des projets, qu'ils soient des projets bien structurés. À la suite du protocole de Kyoto, les pays en développement n'ont pas eu l'argent qui leur était promis. Ce sont les pays qui étaient prêts, les pays émergents, qui ont réussi à monter des programmes. Cette fois-ci, il faut qu'à travers ces contributions, les pays en développement, ils soient prêts, qu'ils arrivent à monter des projets et faire venir ce qui est nécessaire pour le bonheur et le développement de leur population. Eh bien, tout cela, c'est une première dans l'histoire. Pourquoi a-t-on si peu pensé aux voies de développement lors de la décolonisation ?
Merci beaucoup, Pierre Radan.
Merci, au revoir.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Demain, nous verrons que, contrairement aux idées reçues, l'agriculture en zone sahélienne a de l'avenir. Il existe de nombreuses solutions pour rendre les terres arides du Sahel fertiles. Nous vous emmènerons à la ferme de Guié, à 60 km au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est un véritable laboratoire. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.